La chambre de la mariée, Charles Dickens, partie 1/2. La maison avait ce charme très particulier qu'ont les maisons véritablement anciennes. Partout, ce n'était que moulures et lambris anciens. Un magistral escalier ancien menait au premier étage à une galerie, ou plutôt un palier, bordé par une curieuse balustrade de vieux chêne, ou peut-être de vieil acajou du Honduras. Aujourd'hui comme hier, et pour longtemps encore, une maison remarquablement pittoresque. Quelques sombres énigmes y semblaient tapis sous les panneaux de vieil acajou, dont les taches sombres évoquaient autant de lacs profonds. Comme les lacs entre lesquels avaient poussé ces arbres, et qui, à la nuit tombée, lui donnaient un aspect fort mystérieux. Lorsque, poussant pour la première fois la porte, ils avaient pénétré dans la pénombre de l'élégant hall chargé d'histoire, Mr. Goodchild et Mr. Idle avaient été accueillis par une demi-douzaine de vieillards, tous pareillement vêtus de noir, qui, d'un seul envol, franchirent les marches aux côtés du maître de maison et de son valet, sans avoir l'air de les déranger ni même de s'en préoccuper le moins du monde, et qui filèrent, d'un trait de part et d'autre du vieil escalier, tandis que les invités entraient dans le salon qui leur était réservé. C'était une journée lumineuse et ensoleillée, mais Mr. Goodchild avait demandé, après avoir refermé la porte, « Qui diable peuvent bien être ces vieillards ?» Par la suite, pourtant, il avait remarqué, lors de ses allées et venues, que les vieillards avaient totalement disparu. Et depuis lors, pas un seul d'entre eux n'était réapparu. Les deux amis avaient passé là leur première nuit sans jamais les revoir. Mr. Goodchild avait inspecté les longs couloirs et jeté un œil par des portes entrebâillées sans y rencontrer aucun vieillard. Et les occupants de la maison ne semblaient pas attendre leur visite ni s'inquiéter de leur absence. Une autre circonstance étrange frappa les deux visiteurs. C'est que pas un quart d'heure ne s'écoulait sans que quelqu'un poussât la porte de leur salon. Sans hésitation, avec assurance même, elle s'entr'ouvrait, puis s'ouvrait en grand, et chaque fois se refermait d'un coup sec sans un mot d'explication. Qu'ils aient été occupés à lire, à écrire, à manger, à boire, à dialoguer, à somnoler, constamment la porte s'ouvrait sans qu'on s'y attende, et lorsqu'ils tournaient le regard dans sa direction, elle se refermait d'un coup sans que personne apparaisse. Lorsque cela se fut produit une cinquantaine de fois, Mr. Goodchild fait remarquer à son compagnon sur un ton badin « Je commence à croire, mon cher Tom, que ces six vieillards ont quelque chose de louche. » Vint le second soir. Ils avaient passé 2 ou 3 heures à écrire, ou en un mot, à griffonner une partie des notes anodines d'où sont tirées ces quelques pages anodines. Puis avaient posé leurs plumes. Entre eux se trouvait une table sur laquelle étaient posés quelques verres. La maison était paisible, toute porte fermée. Thomas Idle était étendu sur le sofa, la tête auréolée de légères volutes odorantes. Francis Goodchild était adossé à son fauteuil, les mains jointes derrière la tête et les jambes croisées. Autour de ses tempes flottaient les mêmes volutes. Ils étaient plongés depuis un bon moment dans une conversation qui avait abordé toutes sortes de futilités, y compris les étranges vieillards, lorsque Mr. Goodchild changea soudain de position pour remonter sa montre. Et dans l'état de sommeil qui les gagnait déjà, ce geste banal interrompit leur dialogue. Thomas et Idle s'arrêta au beau milieu de sa phrase pour demander « Quelle heure est-il ? » « 1 heure, » répondit Goodchild. Comme s'il avait donné l'ordre d'apparaître à l'un des vieillards et que cet ordre s'était vu exécuter sur le champ, comme l'étaient d'ailleurs tous les ordres dans ce remarquable hôtel, la porte s'ouvrit, un vieillard se tenait là. Il resta sur le seuil, la main sur la poignée de porte. « Revoici l'un des 6 vieillards, Tom !» murmura Mr. Goodchild sur un ton surpris. « Vous désirez, monsieur ?»«
Vous-même, monsieur, vous désirez ?»
demanda le vieillard. « Je n'ai appelé personne. »«
La cloche m'a appelé. »
Il prononça le mot « cloche » avec force et solennité, comme s'il s'était référé à la cloche de l'église. « J'ai eu l'honneur de vous voir hier, si je ne m'abuse, » demanda Mr. Goodchild.
« Je ne saurais l'affirmer, » répondit le vieillard solitaire sur un ton macabre.
« Je crois que vous m'avez vu, non ?»«
Que je vous ai vu ?» fit le vieillard. « Oui, bien sûr, je vous ai vu. Mais je vois beaucoup de gens qui ne me voient pas. »
C'était un vieillard froid, lent, raide, au teint terreux, un vieillard cadavérique, avare de paroles, un vieillard dont les paupières semblaient clouées grandes ouvertes, un vieillard dont les yeux, deux billes de feu, étaient aussi immobiles que s'ils avaient été fixés par deux vis traversant tout le crâne et fixés par des boulons perdus dans ses cheveux gris. La nuit lui parut subitement si glaciale que Mr. Goodchild fut parcouru d'un frisson. Comme pour s'en excuser, il dit sur le ton de la plaisanterie « J'ai l'impression que l'on marche sur ma tombe. »«
Non, non, » dit l'étrange vieillard, « il n'y a personne sur votre tombe. »
Mr. Goodchild regarda Idol, mais celui-ci était toujours allongé parmi ses volutes de fumée. « Personne sur ma tombe ?»«
Non, non. » « Il n'y a personne sur votre tombe, je vous assure, » dit le vieillard.
Il était entré dans la pièce, avait fermé la porte et s'était assis. Au lieu de se plier en deux pour s'asseoir, comme le font ordinairement les gens, il parut s'enfoncer tout droit dans la chaise comme s'il avait plongé dans l'eau. « Mon ami, Mr. Riddle, » commença Mr. Goodchild, qui souhaitait vivement introduire une tierce personne dans la conversation.
« Je suis au service de Mr. Idle, » dit le vieillard sans le regarder.
« Si vous vivez depuis longtemps dans cette maison, » reprit Francis Goodchild.
« Depuis longtemps, oui. »
« Vous pourriez peut-être nous éclairer, mon ami et moi, sur un point qui nous troublait ce matin. » C'est au château du village, je crois, que sont pendus les criminels.
Je le crois, oui.
Est-ce que les condamnés sont tournés vers ce beau paysage ?
Non. Les condamnés sont tournés vers la muraille du château, répondit le vieillard. Au moment où la corde se resserre, vous voyez les pierres du mur se dilater puis se contracter brutalement. Et au même moment, vous sentez pareillement votre tête et votre poitrine se dilater puis se contracter. Puis le feu vous envahit, la terre vacille, le château bondit en l'air et vous chutez dans l'abîme.
Sa cravate semblait le gêner. Il mit la main à sa gorge et s'étira le cou d'un côté, puis de l'autre. C'était un vieillard au visage bouffi et dont le nez semblait à jamais replié de côté, comme s'il était fixé par quelques crochets traversant la narine. Mr. Goodchild se sentait particulièrement mal à l'aise. Il commença à trouver la nuit non plus glaciale, mais étouffante. « Quelle évocation puissante !» fit-il observer.
« Quelle sensation puissante !» repartit le vieillard.
À nouveau, Mr. Goodchild jeta un regard vers Thomas Idle. Mais celui-ci était toujours allongé, le visage attentivement tourné vers le vieillard, impassible. À ce moment précis, Mr. Goodchild crut voir des filaments de feu jaillir des yeux du vieillard pour venir se fixer sur les siens. Et Mr. Goodchild, l'auteur du présent récit de ses aventures, assure le plus solennellement du monde qu'à partir de cet instant, il eut l'impression d'être irrésistiblement contraint de regarder le vieillard en suivant ses filaments de feu.
je dois vous confesser la chose, dit le vieillard en lui jetant un regard sinistre et glaçant.
Me confesser quoi ? Demanda Francis Goodchild.
Vous savez où cela s'est passé ? Juste là !
Mr. Goodchild n'aurait su dire alors, il ne sait toujours pas, il ne le saura jamais, si le vieillard pointait du doigt la pièce juste au-dessus ou la pièce juste en dessous ou quelque autre pièce de l'historique demeure ou encore quelque autre pièce de quelque autre historique demeure de cette ville historique. Ce qui le troublait, c'est que l'index droit pointé par le vieillard avait paru plonger dans l'un des filaments de feu, s'enflammer et s'élever en l'air telle une flamèche. Puis, ayant ainsi pointé quelques directions, s'était éteint.
« Vous savez qu'elle était jeune mariée, » dit le vieillard.
« Je sais qu'on va nous servir du gâteau de mariage, » bredouilla Mr. Goodchild. « On étouffe ici, non ?»«
Cette jeune mariée, » dit le vieillard, « était une jolie fille, aux grands yeux naïfs et aux cheveux blonds pâles. Dépourvue de tempérament et de volonté. Une pauvre gamine faible, crédule, démunie et impuissante. Elle n'avait rien de sa mère. Oh, ça, non ! C'était de son père qu'elle tenait. Sa mère avait pris soin d'assurer tout le nécessaire pour elle-même et sa fille lorsque le père de celle-ci, qui n'était encore qu'une enfant, mourut non pas de maladie, mais de son impuissance à vivre. C'est alors que lui, notre homme, renoua les liens qui avaient existé entre la mère et lui. Lui, qui avait été écarté au profit de cet homme aux grands yeux naïfs et aux cheveux blonds pâles, écarté au profit de cet imbécile-là qui possédait une fortune. Mais lui pourrait tirer un trait sur tout cela en échange de cette fortune. Ce qu'il voulait en guise de dédommagement, c'était cette fortune. Il revint donc aux côtés de cette femme, se remit à la courtiser, ne la quitta plus et se soumit à tous ses caprices. Et elle ne lui en épargna aucun et même en inventa tant et plus. Il endura tout. Et plus il endurait, plus il voulait cette fortune en guise de dédommagement, et plus il était résolu à l'obtenir. Mais hélas, avant qu'il ne parvînt à ses fins, c'est elle qui se joua de lui. Un jour où elle lui criait ses ordres, elle eut une attaque et ne retrouva jamais ses sens. Puis, une nuit, elle porta les mains à sa tête, poussa un cri, se figea, et après quelques heures passées dans cette attitude, elle mourut. Et cela, avant qu'il ait pu obtenir sa fortune en guise de dédommagement. Que la peste l'emporte, pas un centime. Il l'avait haïe à chaque minute depuis qu'il avait renoué avec elle et avait attendu l'heure de sa revanche. Alors, il imita sa signature sur un document par lequel elle laissait tous ses biens à sa fille, alors âgée de 10 ans, qui en serait seule propriétaire. Et il se désigna lui-même comme père adoptif de l'enfant. Puis, il glissa le document sous l'oreiller, sur le lit où reposait le corps, et en se penchant, il murmura à l'oreille de la morte qui ne pouvait plus l'entendre. « Vous, Madame l'orgueilleuse, cela fait bien longtemps que j'ai décidé que, morte ou vive, vous me deviez cette fortune en dédommagement. » Ils n'étaient plus que deux, lui-même et la jolie jeune fille aux grands yeux naïfs et aux cheveux blonds pâles qui allait devenir la jeune mariée. Il la fit éduquer dans une vieille demeure retirée, à l'atmosphère sombre et opprimante. Il confia son éducation à une femme méfiante et fourbe. « Très chère madame, lui dit-il, voici un esprit à former. Accepterez-vous de m'aider dans cette tâche ?» Elle accepta en effet, en demandant elle aussi un dédommagement financier en échange de ses services, qui lui fut accordé. La jeune fille fut élevée dans la crainte de cet homme, bien convaincue que jamais elle ne pourrait s'en libérer. On lui apprit à le considérer dès le départ comme son futur mari, l'homme qui, par devoir, aurait à l'épouser. C'était le noir destin qui pesait sur elle, le sort qui l'attendait et auquel elle ne pourrait échapper. Sous les yeux de l'homme et de la gouvernante, cette pauvrette était comme une cire douce et souple qu'il modelait comme il le voulait. Avec le temps, les traits qu'ils avaient modelés se durcirent, entrèrent et se fondirent en elle, au point de ne plus pouvoir lui être arrachée sans lui arracher la vie. Elle passa 11 ans dans la sinistre demeure au jardin lugubre. Il jalousait jusqu'à l'air et la lumière qui lui parvenaient. Avec la gouvernante, ils la gardèrent enfermée. Il boucha les amples cheminées, fit voiler les étroites fenêtres, laissa un gros pied de lierre envahir la façade à sa guise, la mousse recouvrir les arbres fruitiers laissés à l'abandon dans le jardin clos, et les herbes folles prendre possession des allées gazonnées et fleuries. Il l'entoura d'images de douleur et de désolation. Il fit en sorte que la demeure et les rumeurs à son propos l'emplissent de terreur. Puis, sous prétexte de démentir ses histoires, il l'abandonnait à sa solitude ou la laissait frissonner d'angoisse dans le noir. Et quand elle était au stade ultime de l'abattement ou de la terreur, il surgissait de l'une des cachettes où il se postait pour l'espionner et se présentait à elle comme son seul sauveur. En apparaissant ainsi depuis ses plus tendres années comme la seule personne de sa connaissance qui fût douée du pouvoir d'ordonner et de consoler, du pouvoir d'emprisonner ou de libérer, il s'assura sur cette âme faible un ascendant total. Et alors qu'elle avait 21 ans et 21 jours, il ramena dans cette maison cette pauvre âme, effrayée et soumise, après l'avoir épousée 3 semaines plus tôt. Il avait entre-temps renvoyé la gouvernante, car il valait mieux qu'il s'acquitte tout seul de la tâche qui lui restait à accomplir. Par une nuit pluvieuse, ils revinrent donc en ce lieu où ils l'avaient longuement préparé à ce mariage. Sur le seuil, en entendant les gouttes de pluie tomber du porche, elle se tourna vers lui pour lui dire « Oh monsieur, c'est l'horloge de la mort qui compte mes dernières minutes. » « Et alors, y pouvons-nous quelque chose ?»«
Oh monsieur »
fit-elle en retour.
« Soyez bon pour moi, ayez pitié de moi, je vous fais toutes mes excuses, je ferai tout ce que vous voudrez si vous voulez bien me pardonner. »
Ces mots étaient devenus le perpétuel refrain de cette pauvre fille.
« Je vous fais toutes mes excuses, pardonnez-moi, je vous en supplie. »
Il ressentait pour elle que mépris, elle ne méritait pas qu'on se donnât la peine de la détester, mais cela faisait trop longtemps qu'elle faisait obstacle à ses plans, cela faisait trop longtemps qu'elle était à bout, son entreprise touchait à sa fin, il fallait la mener à bien. « Espèce d'idiote, monte dans ta chambre !» Elle s'exécuta sans attendre, en murmurant
« Je ferai tout ce que vous voudrez. »
Lorsqu'il arriva dans la chambre de la mariée, après avoir passé de longues minutes à barricader soigneusement la porte d'entrée, ils étaient seuls dans la maison car ils s'étaient arrangés pour que le personnel de maison ne soit présent qu'en journée. Il la trouva blottie dans le coin le plus éloigné de la pièce, tapie contre le panneau de boiserie comme si elle avait voulu s'y enfoncer pour disparaître. Ses cheveux blonds pâles lui tombaient en désordre sur le visage et elle le fixait de ses grands yeux qu'envahissait une terreur infinie. « Que crains-tu ? Viens t'asseoir à côté de moi. » Elle débita sur le ton plat qui lui était devenu habituel.
« Je ferai tout ce que vous voudrez, je fais toutes mes excuses, monsieur, pardonnez-moi. »
Hélène, voici un texte que tu devras recopier entièrement de ta main demain. Il est souhaitable que l'on te voie pendant que tu seras occupée à le recopier. Quand tu auras tout mis au propre et que tu auras corrigé toutes les fautes, fais venir deux personnes parmi les gens qui seront dans la maison et signe le document sous leurs yeux. Puis mets-le bien à l'abri dans ton corsage et lorsque je viendrai demain soir, remets-le-moi.
Je ferai tout cela de mon mieux. Je ferai tout ce que vous voudrez.
Alors pourquoi trembler et frissonner ainsi ?
J'essaierai de ne pas trembler ni frissonner, si seulement vous voulez bien me pardonner.
Le lendemain, elle s'assit à son secrétaire et exécuta ses ordres. Il traversa la pièce à plusieurs reprises pour l'observer, et à chaque fois, il la vit occupée à écrire lentement et avec grande application, cherchant à bien s'acquitter de sa tâche. Elle répétait à mi-voix les mots qu'elle recopiait d'un geste apparemment machinal, sans vouloir essayer de les comprendre. Il constata qu'elle suivait à la lettre toutes les directives qui lui avaient été données. Et ce soir-là, lorsqu'ils furent à nouveau seuls dans la chambre de la mariée et qu'il installa son fauteuil auprès de l'âtre, elle quitta sa chaise à l'autre bout de la pièce, s'approcha timidement, tira le document de son corsage et le déposa dans sa main. Ce document léguait tous ses biens à son mari, si jamais elle décédait. Il l'obligea à se poster bien en face de lui pour pouvoir examiner son visage et lui demanda par ces quelques mots, pas un de plus, pas un de moins. « Le savais-tu ? » Elle acquiesça d'un signe de tête. Il y avait des taches d'encre sur le corsage de sa robe blanche qui faisait paraître son teint encore plus livide et ses yeux encore plus grands. Et il y avait aussi des taches d'encre sur la main qui pliait et dépliait nerveusement sa jupe devant lui. Il la saisit par le bras en plantant violemment les yeux sur elle.
« Et maintenant, meurs ! J'en ai fini avec toi !»
Elle s'effondra en poussant un cri sourd et étouffé.
« Je ne vais pas te tuer. Je ne veux pas risquer la prison pour toi. Meurs !»
Et jour après jour, nuit après nuit, il resta assis dans la lugubre chambre de la mariée. Et cet ordre se lisait distinctement sur son visage, sans qu'il ait plus besoin de le formuler. Lorsqu'elle cessait de se lamenter, la tête entre les mains, et levait ses grands yeux vides de toute expression vers lui, qui était assis dans son fauteuil, l'air fermé, bras croisés et front plissé, il y lisait ce mot « Meurs !» Lorsqu'elle en revenait à sa vieille supplique qu'on lui pardonna, la réponse était « Meurs !» Et lorsqu'elle avait réussi à affronter toute la longue nuit en veillant, et que le soleil levant projetait ses rayons rougeoyants dans la pièce sombre, il était accueilli par ces mots. « Encore une nouvelle journée, et tu es toujours vivante, meurs !» Enfermée dans cette maison déserte, à l'écart de toute humanité, et abandonnée à ce combat sans répit, sa situation se résumait à cette simple alternative. C'était à l'un des deux de mourir, soit lui, soit elle. Le sachant parfaitement, il concentrait toutes ses forces contre cette faible créature. Au fil des heures, il ne cessait de l'empoigner par le bras, un bras couvert de bleu à force d'être ainsi saisi, pour lui ordonner « Meurs !» Ce qui arriva, avant l'aube, un jour de grand vent. Il calcula qu'il pouvait être environ 4h30 du matin, mais il ne pouvait en être certain car il avait négligé de remonter sa montre. Et elle s'était arrêtée. Durant la nuit, la jeune mariée avait échappé à sa surveillance et s'était mise pour la toute première fois à pousser de grands cris. Il avait dû lui plaquer les deux mains sur la bouche pour la faire taire. Après quoi, elle s'était affalée dans un coin de la pièce et était restée prostrée contre le lambris. Il l'avait laissée là et était retourné s'asseoir dans son fauteuil, bras croisés, front plissé. Plus pâle encore dans la lueur pâle de l'aube, plus livide que jamais dans la lumière grise du matin,
Il la vit s'approcher en se traînant sur le sol, poussant avec hésitation d'une main crispée un amas de cheveux et de vêtements luisés des yeux hagards.
« Oh, je vous fais toutes mes excuses. Je ferai tout ce que vous voudrez, monsieur. Mais je vous en supplie, laissez-moi vivre. »«
Mère ! » !»«
Est-ce votre ultime décision ? Laissez-moi encore un espoir. »
Ses grands yeux se contractèrent de peur et de saisissement. Puis peur et saisissement se muèrent en reproche. Et le reproche en une expression totalement vide. C'en était fini. Mais avant de bien réaliser que c'en était fini, ce qu'il vit tout d'abord lorsqu'il baissa les yeux vers elle et souleva son corps pour la déposer sur le lit, ce furent les joyaux scintillants que la lumière du petit jour accrochait dans ses cheveux, tels des diamants, émeraudes et rubis. Il l'enterra rapidement. Et voilà, ils avaient tous disparu et il le tenait enfin sans dédommagement.